Bonjour Lionel Ruffel, merci de me recevoir aux éditions Verdier. Je cherche les sources fondatrices de votre texte, Le Dénouement, et je trouve la revue Kaoïd, dont vous êtes le cofondateur en 2000, qui est une revue donc créée sur Internet et consultable uniquement sur le net. Kaoïd est une revue de création critique, c'est ce qu'elle proclame. Quel sens donnez-vous à cette expression, essentielle pour vous, il me semble, de création critique?
Oui, cette expression est effectivement essentielle puisque on en a fait un sous-titre, mais à la fois une sorte de programme de recherche. Au fond, on peut y lire un clin d'œil aux grandes tentatives de revues de la modernité et même à l'Athénéum du romantisme allemand qui proposait dans son programme de joindre les formes théoriques et les formes poétiques, la philosophie et la poésie notamment. Je pense que cette conjonction de la théorie et de la pratique, ou de la théorie et de la création, est un des nœuds fondamentaux de la modernité. Conscient cependant que nous n'étions plus dans la phase triomphale ou triomphante de la modernité, on a essayé de voir ce qui pouvait rester, surtout lorsqu'on choisit de cette modernité, surtout lorsqu'on choisit un mode de publication et finalement d'adresse à un public hein, qui est celui de la revue, c'est-à-dire là encore une forme tout à fait typique de la modernité. Donc effectivement, création critique, c'est aussi ce que nous proposons dans la collection Kaoïd des éditions Verdier, puisque nous publions à la fois des essais et des fictions.
Et quel est l'enjeu pour vous derrière ce terme de création critique?
Je crois que l'enjeu, c'est de montrer que la littérature pense. On est dans une phase aujourd'hui où un discours dominant voudrait que la littérature soit séparée de la pensée, soit en déliaison avec les formes théoriques. Or, la littérature a toujours pensé, pensera toujours et pense aujourd'hui. Notre objectif, c'est simplement de montrer quels sont les modes de production de vérité de la littérature. Ils sont différents de ceux de la philosophie, ils sont différents de ceux de la théorie, mais il y a comme des formes de pré-théorie ou des formes de théorie accomplies dans la littérature, et on essaie de les chercher sous toutes leurs formes, c'est-à-dire à la fois dans les fictions les plus fictionnantes, si j'ose dire, dans la théorie sur la littérature ou dans des textes plus hybrides entre les deux.
Donc voilà, ça c'est une affirmation importante de la revue, en tout cas, que la littérature pense. Donc que la littérature actuelle pense, qu'elle pense son époque. D'où votre livre Le Dénouement, qui est un livre de théorie littéraire sur ce qui se fait d'actuel dans la littérature. Vous revendiquez bien ce terme de théorie littéraire.
Oui, je le revendique tout en étant moyennement attaché. Enfin, j'en fais pas non plus une comment dire une sorte de vigie vers laquelle je me dirigerai sans arrêt. Non, oui, je fais de la théorie littéraire, mais ou plutôt des études littéraires, sachant que les études littéraires, c'est un mode d'appréhension des textes, même si au fond, mon corpus est à la fois littéraire et philosophique. Je crois qu'à la fois ma méthode et à la fois le discours que je tiens sur ces textes-là est un discours de théorie littéraire. C'est du reste, la théorie littéraire n'est pas limitée à la littérature comme objet. La théorie littéraire, je pense, est une analyse des modes de production artistiques qui peuvent avoir un rapport à la littérature. C'est-à-dire qu'on peut, les études cinématographiques sont très souvent proches de la théorie littéraire. Mais oui, je le revendique. Oui.
Très bien, alors rentrons dans ce texte, le dénouement. Là, c'était un petit peu un avant-propos, un avant-goût. Ma première question, c'est qu'est-ce que la conjonction?
Oui, c'est déjà une question très, très, comment dire, très, très avancée. Puisque, bon, la conjonction, c'est un terme que je trouve de la lecture de certains philosophes. Bon, je peux les citer, je crois que ce serait plutôt bien. Alain Badiou, Jean-Claude Milner, Jacques Rancière, Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy, Jean-Christophe Bailly, c'est-à-dire des philosophes qui ont à peu près tous le même âge, hein, qui sont de la même génération, et qui ont tous eu un rapport avec le marxisme et les grandes formes de pensée liées au marxisme. Et ces philosophes-là, lorsqu'il s'agit d'observer ce qui pourrait demeurer de la pensée marxiste après l'effondrement des marxismes réels, propose un certain nombre de concepts, propose un certain nombre d'analyses. Et il m'a semblé que celui de conjonction que j'emprunte directement à Jacques Rancière était une sorte de méta-concept qui réunissait toutes ces pensées. Donc voilà pour l'introduction sur ce, d'où vient la conjonction. Alors ce qu'est la conjonction, c'est au fond, il faut dire de quoi est qu'est-ce qui est joint. Ce qui est joint, c'est l'art, la philosophie, la politique, essentiellement. C'est-à-dire que la modernité, ou ce qu'on désigne généralement par modernité, disons une période qui s'ouvre à peu près au moment de la Révolution française, au début du 19e siècle, dans le romantisme allemand, puis le romantisme français, la grande modernité poétique française. Bon, cette grande période estime que l'art, la philosophie et la politique sont presque intrinsèquement liés, et qu'il n'y a d'art que philosophique, qu'il n'y a d'art que politique, et que la politique est forcément esthétique d'une certaine manière. Et on retrouverait ça d'ailleurs dans les écrits politiques, on le retrouve par exemple chez Marx, on peut le retrouver chez Walter Benjamin, on peut le retrouver à la fois chez les philosophes, à la fois chez les artistes, à la fois chez les théoriciens de la politique. C'est sûrement ce lien-là, de l'art, de la philosophie, de la politique, qui est le plus contesté à la fin du XXe siècle. Notamment, il est contesté parce que on tente d'une certaine manière de dépolitiser l'art, de faire en sorte que l'objet politique ne soit plus un objet philosophique, mais des objets beaucoup plus quotidiens. Bref, on a trouvé, je crois, dans cette conjonction, le noyau central de la modernité qui, si on voulait la contester, devait être attaqué.
Donc pour vous, cette analyse de la conjonction, ce lien entre politique et littérature est fondateur. C'est ce qui est fondateur déjà dans votre travail.
Ah oui, il est fondateur dans mon travail. J'ai toujours travaillé sur ces enjeux-là, ça c'est sûr. Je continuerai à y travailler dans mes prochains projets. Il est fondateur surtout pour la période que j'ai toujours étudiée, c'est-à-dire la période moderne. Il existe, hein, bien avant la période moderne, hein, ce rapport entre l'art et la politique, mais il existe sous des formes radicalement différentes. C'est-à-dire que, essentiellement, la relation de l'art et de la politique, de la littérature et de la politique, se modalise sous deux formes durant la période moderne, sous la forme révolutionnaire et sous la forme républicaine. C'est-à-dire que, notamment sous la forme qu'on connaît le mieux, c'est la forme révolutionnaire, notamment avec la création de ce qu'on a appelé les avant-gardes. Les avant-gardes sont à la fois un terme de politique et un terme artistique. Elles sont révolutionnaires dans le champ des formes, comme dans le champ des idées et de la politique. Donc, comme on a ces avant-gardes littéraires, artistiques, ont été liées généralement au processus marxiste, au processus révolutionnaire, et lorsque ce processus révolutionnaire est arrivé à terme, je parle bien de processus, hein, là, c'est-à-dire avec l'échec immédiat de la révolution soviétique et puis sa défiguration dans le régime soviétique, on a, dans le même temps qu'on a attaqué le régime lui-même, on a attaqué les formes littéraires qu'il aurait défendues ou soutenues. Donc, c'est un enjeu très fort de compréhension de notre présent et de notre passé. Voilà pourquoi j'y travaille.
Très très bien. Vous écrivez, vous précisez ce terme de conjonction, et là on va sauter de terme. Vous écrivez, il y a maximalité en tant qu'il y a conjonction, et il y a conjonction en tant qu'il y a maximalité. Pouvez-vous nous dire donc, c'est quel maximalisme ?
Bon, c'est vrai que cité ainsi, on dirait un peu une maxime ou un aphorisme. Bon, c'est pris quand même dans un discours. Hein, il faut. L'idée de baptiser une certaine esthétique littéraire maximaliste me vient au fond de deux références. La première référence, c'est la définition que Jean-Claude Milner donne de la Révolution. Il dit que la révolution est maximale, de toute façon. Si on veut tenter de définir le désir à la fois de rébellion et de pensée porté par la révolution, ce qui peut le définir, c'est que ce degré est poussé à son plus haut point et qui est celui du maximalisme. Voilà pour la première référence. La deuxième référence, c'est qu'on a beaucoup parlé pendant la période qui m'intéresse, c'est-à-dire la fin du XXe siècle et le passage au XXIe, d'une, comment dire, tendance minimale, d'une tendance minimaliste qui serait la tendance majeure et la tendance révélatrice de notre époque. Ce qui n'est pas faux, puisqu'il y a un vrai courant littéraire qui s'appelle le minimalisme, on peut gloser sur ce terme, mais il n'est pas si mauvais que ça, au fond. Cela dit, à côté de cela, il y a des auteurs que j'avais envie d'étudier, alors particulièrement Volodine, mais aussi Novarina, Guyotat, Rollin, dont les formes, à la fois littéraires et les formes de pensée, sont plutôt liées, selon moi, à l'excès. Parce qu'elles n'étaient pas prises dans le champ d'analyse de la période contemporaine, parce qu'elles étaient liées au processus révolutionnaire, de manière souvent clairement affirmée, au moins dans leur rapport à la modernité esthétique, mais souvent aussi dans la modernité politique, m'est venue l'idée de baptiser maximaliste ces œuvres, c'est-à-dire que leur rapport à l'excès pour décrire le monde et l'histoire était porté par des formes qui, elles-mêmes, passaient la mesure. Voilà ce qu'était le maximalisme dans le champ littéraire.
Donc, nous en venons à cette théorie générale que vous formez, le dénouement. Trois notions forment une esthétique du dénouement. La conscience de l'histoire, on l'a déjà abordé avec la conjonction, puisque forcément ça, c'est ce lien fort, et c'est pour ça dans vos premières parties, vous utilisez les philosophes que vous avez cités. La deuxième notion, c'est le maximalisme, et vous dites maximalisme romanesque. Et la troisième notion, c'est l'internationalisme, c'est-à-dire un cosmopolitisme littéraire. Vous pouvez nous résumer rapidement ces trois épisodes ?
Oui, qui ne se situent pas exactement sur le même plan, même si pour bon, des raisons de facilité de compréhension, ils se situent sur le même plan dans mon livre. La conscience de l'histoire, c'est, me semble-t-il, la conscience que quelque chose arrive. Quelque chose arrive, il se passe toujours quelque chose. Mais quelque chose d'inédit arrive depuis 20 ans ou 25 ans, qui est un processus global touchant à la fois l'histoire, les formes esthétiques et les formes politiques. Ce processus global, c'est le passage à un nouveau siècle, à une nouvelle ère. De manière générale, une nouvelle ère historique, notamment, et d'histoire géopolitique, avec l'effondrement de l'Empire soviétique, avec la naissance de nouveaux conflits. Bref, une nouvelle ère qui bouleverse les critères d'analyse que la modernité nous a fournis. Qu'on l'appelle postmodernité ou pas, moi j'ai aucun problème avec le terme de postmodernité. Donc le maximalisme, donc l'esthétique que j'essaie de développer, est une esthétique inquiète de cette mutation. C'est une esthétique inquiète de l'histoire et qui, face à cette inquiétude, a choisi un rapport direct à l'histoire, un rapport de confrontation, un rapport d'affrontement, et notamment au XXe siècle, à ce qui a fait le XXe siècle, c'est-à-dire les catastrophes politiques, humaines et historiques. Donc tous les auteurs dont je parle sont des auteurs qui se tiennent face au siècle, qui se tiennent face à l'histoire, et surtout qui souhaitent que de l'histoire, on transmette quelque chose et on retienne quelque chose, on transfère quelque chose, parce que, il faudrait peut-être y revenir plus tard sûrement, il y a aujourd'hui un processus aussi majoritaire de négation de certains thèmes historiques. Certains thèmes sont ultra valorisés, mais d'autres sont tout à fait niés. Donc, la conscience historique est effectivement à la fois un enjeu littéraire et un enjeu historique et politique. Par ailleurs, le maximalisme, bon, j'en ai un peu parlé, je crois que face à cette histoire elle-même excessive, certains auteurs ont choisi des formes de l'excès pour en rendre compte. Ce sont les auteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, Novarina, Guyotat, Volodine, Rollin, on pourrait en évoquer d'autres. Mon corpus est encore plus d'exemplarité, non pas d'exhaustivité. Enfin, l'internationalisme, j'en parle surtout au départ à propos de Volodine et Rollin, Mais je pense qu'on peut en parler aussi à propos de Novarina et de Guyotat. L'internationalisme est un des grands thèmes de la modernité, notamment de la modernité politique, parce qu'il a été fortement lié au processus avant-gardiste. Toutes les avant-gardes étaient internationales. Le refus du sol et de la nation était l'ouverture à une ère nouvelle, où le champ de représentation de l'humanité n'était plus celui de la frontière de la nation, mais au contraire de l'homme nouveau dans une forme d'universalité. Donc, grand, grand thème de la modernité, et j'ai essayé de voir comment ce grand thème de la modernité avait été valorisé par certains auteurs et ce qui allait en rester dans la période actuelle. Donc, un certain rapport de refus du sol, de refus de la nation, me semble caractériser cette esthétique maximaliste.
Cette théorie du dénouement, et là on va aborder un autre terme qui est la fin, qui résonne dans tout votre texte. Cette théorie du dénouement montre que cette interrogation de la fin est dans l'air du temps. C'est pour cela aussi que vous avez interrogé des philosophes actuels et des philosophes proches de la politique. Et vous, vous y apportez une réponse originale à cette interrogation de la fin. Est-ce que vous pouvez expliciter cette réponse originale?
Oui, je crois que c'est un enjeu fondamental. C'est un enjeu majeur qu'il faut penser en sortant malgré tout des positions tranchées trop vives qu'on peut jusqu'à maintenant trouver. Si je tente de définir comment se manifeste l'enjeu de la fin du siècle, de la fin d'une ère historique telle que nous le vivons aujourd'hui, je dirais qu'il y a deux positions très fortes qui généralement s'affrontent. On a une première position qui est fortement liée au grand thème de la fin, fin de l'histoire, fin de la politique, fin des idéologies, qui ont été ces grands thèmes très fortement mobilisés en France par un grand nombre de penseurs, fin de l'art, fin de la culture, fin de l'école, fin de la transmission, on peut aller très 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 loin hein, par un certain nombre de penseurs. Qui procède à une vision catastrophiste de l'histoire, vision apocalyptique de l'histoire, cette fin n'ouvrant au fond qu'à la barbarie. Deuxième version, c'est une version au contraire. C'est une vision au contraire beaucoup plus euphorique et parfois un peu naïvement euphorique et qui est plutôt portée par les thèmes anglo-saxons du post. Post-colonialisme, post-modernisme, post-structuralisme, post-genre, aujourd'hui, hein, très à la mode, avec le queer, avec... et qui est une vision très productive théoriquement, il faut bien la reconnaître, hein, très, souvent assez passionnante, mais un peu naïve de transformation positive de l'histoire, de passage radical à une nouvelle ère, en oubliant le passé et en rejetant le passé. Bon, ces deux positions, qui sont des postures très politiques, hein, les unes comme les autres, me semblaient inadéquates et me semblaient déficientes pour rendre compte de notre présent. C'est pour ça que j'ai proposé ce terme qui s'appelle, enfin, le terme du dénouement, qui est un terme que j'emprunte à la tragédie, ou même pas à la tragédie, d'ailleurs, à la dramaturgie classique, hein, tragédie et comédie, parce que le dénouement, qui est un terme aussi que j'emprunte au livre de Jean-Claude Miller dont je parle, Constat, le dénouement dans la tragédie et dans la dramaturgie classique est un moment qui est à la fois fin et début, qui est à la fois clôture et ouverture, et donc qui est à la fois résolution et ouverture des possibles. Il me semblait parfaitement définir notre époque, qui est une période qui accomplit, qui va au bout d'un programme qui a été celui de la modernité, et loin d'en pervertir le programme, je crois qu'elle le résout. Elle le résout avec une ouverture à quelque chose d'inédit. Ce que je souhaitais faire, c'était n'être ni dans une théorie de la fin qui est une théorie du passé, ni dans une théorie du post qui est une théorie du futur, mais être dans une théorie du présent qui mélange passé, qui superpose passé, présent et futur. Le dénouement est un terme, est une temporalité complexe qui mélange le ou qui superpose plutôt, qui ne mélange pas, mais qui superpose le passé, le présent et le futur, qui tente de voir ce qui peut rester du passé dans le présent, et qui tente de voir ce qui, dans le présent, appelle l'avenir. Voilà, c'est donc non pas un troisième terme, c'est pas un terme de neutralité des deux premiers, mais un autre regard sur notre période.
Alors on va venir à ces petits problèmes que j'ai trouvés dans votre texte et dont je souhaitais vous questionner, vous interroger à propos. Bon, tout d'abord ce problème de corpus, mais vous y avez en partie répondu. Vous avez dit que c'était un corpus d'exemplarité et pas un corpus d'exhaustivité. Bon, néanmoins, ça me pose quand même un petit souci, parce que cette théorie du dénouement, vous la repérez chez des auteurs qui, à mon sens, n'ont rien à voir ensemble, et même qui n'ont pas le même terreau théorique, en fait. Volodine, Novarina, Guyota ou Roulin, je ne suis pas sûr qu'ils se reconnaissent mutuellement. D'ailleurs, même à mon sens, je crois qu'ils ne se reconnaissent pas, et qu'ils n'ont qu'un lien entre eux, si ce n'est une même obstination. Alors, pour vous, quelle légitimité de les avoir réunis ?
Bon, bah, y a plusieurs éléments de réponse par rapport à ce que vous venez de dire là, juste à l'instant. Si, beaucoup se reconnaissent. Vous pouvez effectivement distinguer Guyota, je pense que c'est ce que vous voulez faire, mais Novarina, Volodine et Rolin se reconnaissent. Volodine et Rolin sont très proches. Volodine aime énormément Novarina, ils se sont rencontrés dernièrement à l'occasion d'un colloque. Mais cela dit, là où je m'accorde absolument avec vous, c'est qu'il y a deux sous-groupes, hein, et puis j'évoque ces deux sous-groupes. Je ne nie pas du tout cette question. Ces deux sous-groupes, ce sont aussi deux sous-groupes générationnels, même si les générations sont très proches. Mais Volodine et Rolin ont exactement le même âge. Novarina et Guyota ont presque 10 ans de plus, pas tout à fait 10 ans de plus, parce que Guyota et Novarina ont commencé à être publiés et reconnus très très jeunes. Hein, on a toujours l'impression qu'ils font partie de la génération précédente, mais si je me souviens bien, Novarina est de 43 et Guyota au tout début 42 ou quelque chose comme ça. Donc Volodine et Rolin de 49, vous voyez, c'est très très proche. Mais la reconnaissance littéraire et l'écriture, le passage à la publication et à la reconnaissance a été beaucoup plus précoce pour Novarina et Guyota. Cela dit, je crois que ces 5 ou 6 années qui forment la génération baby-boom, qui la distingue en tout cas de la génération précédente, hein, Volodine Rolin sont de la génération baby-boom, mais pas Guyota et Novarina, sont tout de même fondamentales. Pourquoi ? Parce qu'entre quelqu'un qui est né en 49, qui a donc 19 ans en 1968, et quelqu'un qui est né en 43 ou en 42, et qui a 25, 26 ans, eh bien, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses parce que l'effervescence qui existe entre 65 et 75, d'un point de vue théorique, historique, avant-gardiste, le phénomène de radicalisation des avant-gardes, à la fois d'un point de vue politique et esthétique, devait fortement toucher Guyota et Novarina, qui commencent à publier à cette époque-là, alors que Rolin et Volodine accèdent à la publication à un moment où ces programmes, les grands programmes avant-gardistes, se sont accomplis et se sont pratiquement arrêtés. Hein, si on veut des dates théoriques fortes, on peut prendre l'exemple de Solers qui fait un passage très fort d'une esthétique avant-gardiste dans les années 70 ou au début des années 80, une esthétique qui n'est absolument plus avant-gardiste en tout cas. Bon, donc effectivement, ce qui m'intéressait dans ce regroupement, c'était aussi, peut-être ne l'ai-je pas assez mis en lumière, c'était peut-être aussi de montrer cette articulation très proche entre les derniers, tout derniers représentants de la grande période avant-gardiste de la modernité et les tout premiers représentants de l'ère nouvelle que je nomme le dénouement, et de montrer comment on pouvait repérer des thèmes communs, c'est-à-dire le passage des uns aux autres. Donc, je crois qu'il y a effectivement, et j'en parle aussi de manière, je crois, très précise au moment de la langue mineure, que j'emprunte évidemment à Deleuze et Guattari, en montrant que le concept de langue mineure, il y a deux concepts de littérature mineure, pardon. Il y a deux concepts de littérature mineure chez Deleuze et Guattari. Les deux premiers, Novarina et Guyota, répondent à la première formalisation de ce concept, tandis que les deux autres répondent à la deuxième formulation de ce concept. Donc vous voyez, je crois que j'ai quand même distingué les quatre auteurs.
Parfait, effectivement, là, c'était, c'est, la réponse me convient très très bien. Alors j'aborde mon deuxième problème, du coup, je reviens à la charge. Et, bon, celui-là est moins superficiel, là, c'était quand même un problème vraiment, vraiment superficiel, c'est celui de l'emploi du terme roman. Vous employez le terme avant tout de roman, vous dites même maximalisme romanesque. Or, Volodine, j'ai l'impression, s'est créé d'autres termes pour dire ce que sont ces textes. Novarina, ses textes explosent le roman et sont très proches du théâtre. Il dit même roman, vous dites même à un moment donné roman théâtraux ou l'inverse. Et enfin, Guyotat refuse catégoriquement le qualificatif de roman et de romancier. Donc, ce terme de roman, moi, m'a gêné. Et ma question, c'est pourquoi vous n'avez pas préféré employer le terme de fiction ou alors le terme plus général de littérature plutôt que d'utiliser ce terme peut-être trop, enfin, à mon goût, trop spécifique de roman?
Bien, si j'avais utilisé ces deux termes, que par ailleurs je peux utiliser quand je discute avec quelqu'un de ces auteurs, hein, on peut effectivement les utiliser. Si je les avais utilisés, j'aurais été en contradiction avec mon propos, qui était justement de montrer comment le roman, le genre roman, dont je vous signale que Guyotat ou Novarina ne sont pas les premiers à le faire exploser. Hein. Loin de là, très loin de là. Ni Volodine. La création de sous-genres sur des formes romanesques ou des formes narratives n'est pas une nouveauté, non plus. Justement, ce qui m'intéressait de voir, c'était l'histoire du roman. L'histoire du roman et son passage de la modernité à l'ère nouvelle que je nomme le dénouement. Le roman, qui fut un genre bourgeois, au XXe siècle, s'est chargé de toutes les valeurs politiques. C'était le roman de l'histoire. C'était le genre, pardon, de l'histoire, le genre de la politique. C'était le genre de tous les genres. C'était le genre de l'excès. Et l'histoire de la littérature au XXe siècle se confond souvent avec cette histoire d'éclatement du roman, de travail sur le genre même romanesque. Eh bien, ce qui m'intéressait, c'était de voir, dans une époque qu'on dit volontiers marquée par la dissolution des genres, qu'on dit volontiers marquée par la disparition d'un roman, parce qu'on ne pense qu'à deux choses. On pense soit au roman de type balzacien, très grand roman par ailleurs, que je défends beaucoup parce qu'il est beaucoup attaqué, mais on pense souvent aujourd'hui, le roman n'est que le modèle balzacien, déformé évidemment, ou alors le genre narratif de type autobiographique. Bon, mais le roman, c'est bien plus que ça, le roman de la modernité. Le roman, c'est le genre de tous les excès, c'est le genre qui doit porter la responsabilité de dire l'histoire dans la modernité. Donc, si j'avais renoncé à ce terme de roman, j'aurais été en parfait désaccord avec mon propos, qui est de voir le passage d'une époque historique à une autre. Par ailleurs, c'est vrai que Guyotat très dernièrement parlé de ce terme roman, et dans le même temps, même dans l'explication, doit bien reconnaître que s'il fallait, ce sont des versets, mais s'il fallait l'intégrer à un genre, ce serait malgré tout un genre narratif long, donc ça correspondrait au roman. Et enfin, pour ce qui concerne Novarina, je n'ai traité que de ce qu'on appelle soit les romans utopiques, soit les romans théâtraux, et non pas de ces pièces de théâtre. Mais j'ai fait exprès de prendre dans mon corpus des auteurs qui défigurent le roman. Parce que si j'aurais créé un canon, sinon.
Alors venons-en à la portée de cette théorie du dénouement. Comment est-ce que vous voyez cette théorie opérer? Parce que c'est une théorie ambitieuse. Comment vous la voyez opérer et à quoi sert-elle?
Alors là, évidemment, c'est une question complexe. Hein. Oui, je la vois opérer et je vais la mettre à l'épreuve hein, dans des projets de recherche hein, qui toucheront à la fois d'autres objets ou qui développeront certains des objets qui sont à peine esquissés dans ce livre-là. Le dénouement, comme vous semblez le remarquer dans votre question, est un livre aussi programmatique. C'est un livre fondateur pour moi, hein, je veux dire pas fondateur pour les temps présents, mais fondateur pour moi. Dans le sens où il ouvre un champ de recherche qu'il va falloir mettre, que j'ai déjà mis à l'épreuve dans, disons, des circonstances universitaires, que j'ai déjà mis à l'épreuve d'autres objets et que je mettrai à l'épreuve d'autres objets. L'enjeu, ce sont les temps présents. L'enjeu, c'est de comprendre ce qui arrive, ce qui se passe dans son rapport au passé et au futur. Donc l'enjeu, c'est bien aujourd'hui de penser le présent. Le dénouement est fait pour penser le présent. Donc c'est de cette manière-là que je le vois opérer et j'espère que ça opérera.
Et du coup, là, ce n'était pas un problème que je voyais dans cette théorie, que je rappelle qui est vraiment une théorie ambitieuse. J'ai eu l'impression qu'elle ne prenait pas en compte, bien sûr, toutes les démarches actuelles, c'est évident, mais qu'elle ne prenait pas en compte, par exemple, deux démarches, celle de Mehdi Belhaj-Kassem et celle de Christophe Fiat, qui sont publiées dans la revue Kaoïd. Alors, ma question, c'est est-ce que cette théorie est incomplète ? Est-ce que donc vous souhaitez la compléter pour pouvoir intégrer des démarches qui vous semblent chères dans la théorie du dénouement ou dans une théorie qui s'appellerait autre chose ?
Alors oui, effectivement, oui, de toute façon, c'est une théorie incomplète, absolument incomplète. Alors les questions posées par les œuvres de Mehdi Belhaj-Kassem ou de Christophe Fiat, il faudrait les creuser bien en profondeur. Parce que là aussi, moi je tiens beaucoup à la question des générations, hein, comme vous l'aurez compris dans une réponse précédente. Là aussi, on parle de générations différentes et entre Mehdi et Christophe, ce n'est pas la même. Hein, ce n'est pas tout à fait la même non plus. Donc il faudrait effectivement voir ce que Christophe Fiat, les livres de Christophe Fiat, comment il renouvelle le genre de la littérature et de la poésie expérimentale, de la poésie où le médium est très important, dans lequel le médium est très important, et voir ce que Mehdi opère comme mutation dans le champ à la fois de la philosophie et de l'expérience subjective de la posture d'auteur, du travail sur la posture d'auteur. Bien, ça, c'est des questions qui sont posées au présent, hein, comme toutes les autres questions. Est-ce que moi-même, j'y répondrai ? Je n'en suis pas sûr. D'autant que, dans ce cas-là, la proximité avec ces auteurs m'encourage à une certaine distance théorique. Mais je veux bien aussi que d'autres le fassent. Hein. Je ne suis pas du tout opposé à ce que mon concept de dénouement soit travaillé par d'autres.